Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. Une émission qui a été préparée, comme chaque soir, par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale Air Cocaïne, à quelques jours donc de l'ouverture, lundi prochain en fait, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Une cour d'assises spéciale. On reviendra sur cette notion de cour d'assises spéciale dans un petit instant. Le jugement, les personnes qui sont dans le box sont au nombre de 14. Il y a bien sûr les deux pilotes français qui avaient été exfiltrés dans cette fabuleuse opération digne des services secrets. Ils avaient été condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine, tout le monde s'en souvient. Et puis alors qu'ils étaient en liberté surveillée, puisqu'ils avaient fait appel de cette décision, eh bien, un beau matin, on a constaté qu'ils avaient quitté l'île de Saint-Domingue. Un document RTL, tout de suite, pour commencer cette émission. C'est un document du 22 mars 2013, donc quelques jours après, qu'on ait appris qu'un avion d'affaires qui devait décoller pour la France avait été stoppé juste avant son décollage à Saint-Domingue, à l'intérieur de ce Falcon 50 qui transporte d'habitude des hommes d'affaires. La police trouvait 700 kilos de cocaïne. Écoutez les explications que donnait à l'époque sur notre antenne Julien Dumont.
682 paquets répartis dans 26 valises, 670 kilos au total dans la soute de ce Falcon 50. Les quatre Français interpellés à bord font donc figure de principaux suspects. Il ne s'agit pourtant pas de trafiquants internationaux connus. Deux membres d'équipage, pilote et copilote, et deux accompagnateurs connus de la justice en France, mais pas pour des affaires de drogue. Aujourd'hui, tous les quatre sont dans les geôles de Punta Cana, autant connus des touristes pour ses plages que des policiers pour ses trafiquants. À leur côté, en prison, la fine fleur des forces de sécurité de l'aéroport. Aéroport de la station balnéaire, des ripoux en pagaille, au moins une dizaine d'officiers de l'armée et des douanes, ceux qui permettaient le trafic. Les enquêteurs français vont donc maintenant s'attacher à retracer le passé de ces quatre hommes et les différents plans de vol de cet avion ces derniers mois. Déjà repéré en France par les services spécialisés, ce Falcon appartient à une société de location d'appareils de luxe basée dans le sud de la France. Contacté tout à l'heure par téléphone, un de ses responsables s'en est tenu à un très clair. Pas de commentaire.
Alors des commentaires, on va en faire beaucoup dans cette émission avec mes invités que je vous présente tout de suite. Bonjour Jérôme Pierrat.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jérôme Pierrat, journaliste bien connu qui a son rond de serviette ici dans cette émission L'heure du crime sur RTL, spécialiste du crime organisé. Et vous avez, Jérôme Pierrat, publié il y a quelque temps avec l'autre journaliste Marc Le Plongeon un livre intitulé L'affaire Air Cocaïne, Mafia et Jet Privé, un livre paru aux éditions du Seuil. Donc on compte beaucoup sur vous pour nous donner un peu les tenants, les aboutissants, les coulisses de toute cette histoire incroyable. Et puis, il fallait évidemment dans cette émission également Pierre Julien. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Jacques.
Pierre Julien, spécialiste aéronautique de la rédaction d'RTL, mais pas que, mais là, c'est votre casquette de spécialiste aéronautique que vous portez pour nous ce soir. Dans un petit instant, dans quelques minutes, nous aurons également Maître Julien Pinelli qui est l'avocat, lui, de l'une des personnes interpellées ce fameux jour du 19 mars 2013, Nicolas Pissabia, qui était sur la liste des passagers de cet avion Falcon 50. Il se trouve d'ailleurs actuellement toujours retenu en République dominicaine. Et donc, on va pas parler de lui tout de suite, Jérôme Pierrat, puisque son avocat, mais il nous le confirmera tout à l'heure, demande d'ailleurs que le procès soit disjoint, puisque son client n'est pas matériellement capable de venir se présenter devant cette cour d'assises. Et ma première question, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de cour d'assises spéciale ?
En cas de trafic international de stupéfiants ou d'affaires de terrorisme, la justice peut avoir recours à une cour d'assises spéciale, c'est-à-dire uniquement composée de magistrats professionnels et sans la présence d'un jury.
D'accord. Et les débats sont prévus pour 7 semaines. Ça veut dire que c'est un procès fleuve qui va commencer.
Là, c'est ce qu'on appelle les grandes assises. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre déjà de renvoyer devant la cour, hein. Près d'une dizaine. Le dossier est complexe, il a des milliers de cotes. Même si l'affaire en elle-même a l'air simple comme ça sur le papier, hein, on se dit c'est un avion qui transporte des tonnes de coke, il est arrêté, il y a des gens dedans, et puis on va les juger. Bon, finalement, comme c'est un dossier qui recèle quand même un certain nombre de zones d'ombre, de mystères, car en plus dont l'enquête a été menée en grande partie finalement en République dominicaine, puisque c'est là-bas que les faits se déroulent, et dans des conditions enquête quand même contestable, parce que le système local, vous l'avez rappelé vous-même, et Julien Dumont dans son papier aussi, qui la corruption est galopante localement, notamment en ce qui concerne le trafic de stupes. Hein, la République dominicaine, c'est devenu un hub commercial, un supermarché de la coke depuis des années. Et donc, ça a gangréné à peu près toute la société jusqu'à son plus haut niveau.
Ouais.
Donc voilà, c'est une affaire complexe.
Donc une affaire complexe. Pierre-Julien, quand vous avez appris ça, vous qui êtes baigné dans le monde aéronautique, c'est quand même un sacré coup de tonnerre, non? Un avion d'affaires dans lequel on saisit 26 valises contenant autant de cocaïne.
Alors c'est vrai que on apprend cela. 26 valises, près de 700 kilos de cocaïne. République dominicaine, ça sent pas bon au départ. On se dit, oulala, il y a un trafic derrière. Bon après, évidemment, il faut connaître les responsabilités. Alors, cette société est-elle, cette compagnie aérienne existe-t-elle? Les pilotes sont-ils en fait dans l'affaire?
Oui. Qui alors, est derrière tout non, ça? Ça, on en reparlera dans un petit instant.
Mais tout de suite, vous avez ça, vous avez ce pays, on sait bien que c'est du trafic, il y a tout ça. Dernièrement encore, hein, la cour, on parlait tout à l'heure de cour d'assises spéciale, il y a deux fonctionnaires de la PAF, de la police des frontières, qui viennent d'être condamnés à 10 ans, justement, pour avoir un peu trop fermé les yeux sur les trafics.
Et participer, en fait, à un trafic.
Tout à fait, qui venait sur Roissy. Donc, bien sûr, quand on découvre ça, on se dit, oulala, derrière, il y a quelque chose, et peut-être qu'en tirant les ficelles, ça va être du gros filet. Le filet va peut-être être plus important,
plus rempli que ce qu'on croit.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Alors, on va faire une première pause hein, dans cette émission. Tout à l'heure, on entendra d'ailleurs l'un des deux pilotes qui s'était exprimé sur RTL il y a quelques années. Hein. C'est un document qui remonte à l'année 2014 parce que, comme on l'a dit avec Jérôme Pirat il y a un instant, c'est une véritable odyssée, une véritable saga, puisque ça commence en 2013, on est en 2019. Il y a déjà eu un procès en République dominicaine. Et maintenant, on va voir ce que risquent ceux qui sont déférés, les 14 personnes qui sont déférées à partir de lundi prochain devant la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence.
L'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
Les invités de l'heure du crime ce soir pour cette émission spéciale Air Cocaïne à quelques jours de l'ouverture du procès en cour d'assises qui va s'ouvrir lundi donc devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Jérôme Pirat, spécialiste du crime organisé et co-auteur, on le disait tout à l'heure avec le journaliste Marc Le Plongeon d'un livre qui faisait le point déjà, et large point sur toute cette affaire que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent de lire s'ils sont passionnés de cette affaire parce que je crois que vous avez vraiment plongé très profondément dans ce dossier. Le livre s'intitule L'affaire Air Cocaine, Mafia et Jet Privé. Il est paru aux éditions du Seuil. Et puis Pierre-Julien, qui dans un instant, comme spécialiste aéronautique, va nous dire un peu comment fonctionne cette aéronautique privée, parce qu'on connaît bien, nous les passagers, les règles de sécurité des grands vols commerciaux. Mais comment ça se passe avec les petits avions? Enfin, les petits avions, Falcon 50, hein, ça coûte...
C'est déjà une belle machine.
Oui, c'est une belle machine. Ça va aussi vite qu'un avion de ligne.
Ça va pas de 900 heures, voilà, 6000 kilomètres d'autonomie.
Et c'est souvent des avions qui sont affrétés, évidemment, par des hommes d'affaires, mais qui, en général, ont pas avec eux 26 valises, quoi. C'est rare, quand même. Bon, Jérôme Pirat, question ouverte. Si vous aviez raconté cette histoire à quelqu'un qui arrive de la planète Mars, vous lui dites quoi?
Bah, je commence par le début. En résumé, il y a un type qui s'appelle Franck Collin. Qui est un petit gars de la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, qui a grandi dans une cité, une espèce de quartier sensible.
Qui sera lundi dans le box des accusés, d'ailleurs.
Voilà, et qui, un jour, après... Bon, qui est devenu agent de sécurité dans la vie, portier de boîte de nuit, garde du corps. Il a commencé à frayer avec ce monde un peu jet-set, des jets et de la nuit tropézienne. Finit par atterrir en Roumanie où il se marie avec une starlette de la télé locale. Il fait un beau mariage. Il a des velléités d'homme d'affaires, de travailler dans l'immobilier localement, etc., etc. Et puis, comme il aime bien les paillettes et le luxe, il revient en vacances sur la Côte d'Azur chez lui un été et dans une boîte de nuit il rencontre un type qui se fait appeler Darian ou Ryan, tel qu'il se présente, qui a visiblement les moyens, une aussi belle montre que lui, une voiture encore plus puissante, et qui va, ils vont être amenés à se revoir. Il se présente comme agent de joueur de foot. Et il va lui demander d'affréter un avion privé et de s'en occuper parce qu'il a des choses à rapporter de République dominicaine. Quoi ? On ne sait pas bien. Est-ce que Franck Colin le savait ? C'est toute la question.
Bon. C'est comme ça que commence les vols.
C'est comme ça que commence cette affaire.
Et qu'on s'adresse à cette fameuse compagnie d'aviation
d'affaires. Et le fameux Franck Colin, lui, il va naturellement se tourner vers le pilote qui l'a amené en vacances, qui s'appelle Alain Castani, qui est aussi renvoyé devant la cour d'assises, et qui va jouer les courtiers, les brokers. Il va lui trouver une compagnie d'aviation pour son copain, le fameux Darian Ryan, qui s'appelle en réalité Ali Bouchareb, comme vont le découvrir les enquêteurs. Ce Ali Bouchareb, on en reparlera, mais c'est
considéré un peu comme un gros bonnet de la drogue.
C'est considéré comme étant
et qui
le
sera aussi dans le box lundi, quoi.
C'est lui le présumé commanditaire de toute cette affaire. Bon, voilà. Et donc il va se tourner vers ce pilote qui va lui trouver cette compagnie d'aviation. Ils vont louer le jet, le Falcon 50 d'Alain Afflelou, qui l'a lui pour rien dans le coup, a juste prêté
son avion, mais il le
loue de temps en temps. Et des vols vont commencer. Voilà, les vols. Et le fameux Franck Colin, il va demander, ça on va en reparler, à un copain qui s'appelle Nicolas Pisapia, un gars qui est un peu à la dérive malheureusement, c'est-à-dire qu'il a pas de boulot, il est divorcé, il l'a rencontré en Roumanie comme lui, c'est un Marseillais d'origine, et puis ce garçon, ça devient un peu son homme à tout faire, pas son homme de main parce que ça aurait une connotation mafieuse et c'est pas le cas parce que tous ces gens sont pas des voyous.
Ils sont pas dans le milieu habituel,
c'est pas des voyous et des trafiquants. C'est pas des gens qui sont enregistrés comme tels ou connus comme tels. Et puis les vols vont commencer, il va y avoir un premier vol, où dont on va rapporter des valises sur l'aéroport du Môle, le petit aérodrome à côté de Saint-Tropez. Là, ça va mettre la puce aux autorités. En tout cas, un employé de l'aérodrome va trouver ça bizarre, va appeler les gendarmes. Ils vont se retrouver avec les gendarmes sur le dos pendant un certain temps. Il va y avoir un deuxième vol, cette fois en Équateur, à vide. L'avion va être contrôlé là-bas par les autorités anti-drogue, avec force visite de chiens à l'appui, etc., etc. Ces vols sont effectivement un peu étranges. Ils sont payés en liquide, comme on va l'apprendre. Personne voyage à part cet homme de main, Nicolas Pisapia, qui lui a pas grand-chose à faire d'autre dans la vie. Et résultat des courses, troisième vol, et c'est ce fameux troisième vol qui, au départ de Punta Cana en République dominicaine, va attirer l'attention des autorités et dans lesquelles elles prétendent avoir effectivement trouvé 700 kilos de cocaïne. Tout le monde est arrêté. Voilà où on en est en gros de cette histoire. Donc aujourd'hui, on va juger tout ce petit monde qui a gravité dans ce dossier. Les quatre qui étaient en République dominicaine et aussi Franck Colin, Ali Bouchareb le trafiquant, les deux patrons de la société d'aviation. Enfin voilà, tout ce petit monde se retrouve devant les assises.
Alors, on va faire un petit flashback. Là, on se retrouve pendant l'année 2014. On va écouter un document RTL, puis on le commentera après avec vous, Pierre-Julien. 22 septembre 2014, donc les quatre Français qui ont été interpellés, arrêtés au départ par les autorités, sont là sous le coup d'une accusation très très grave. Ils attendent que leur procès s'ouvre. Ils ne savent pas quand il va s'ouvrir. Ils ne savent pas si on va entendre leurs arguments. Et Bruno Audos, donc l'un des deux pilotes français, confie ce 22 septembre 2014 ses appréhensions au micro de Jean-Alphonse Richard qui l'a joint pour RTL par téléphone.
C'est pas un truc qui nous réjouit forcément. Nous, on n'est pas des habitués de ce genre d'exercice. Hein. On était des gens sans histoire, avec des vies de famille et des vies professionnelles traçables, connues. Donc on va faire au mieux. On s'y prépare. Je sais que ça nous occupe du matin au soir et surtout du soir au matin. C'est ça qui est le plus difficile à gérer.
Vous faites confiance totalement à la justice de Saint-Domingue ?
Avoir confiance dans la justice, ce serait que pour nous, tout simplement, elle reconnaisse que ce n'est pas notre histoire, on n'a rien à voir là-dedans, et nous rendre la liberté pour entrer dans notre pays. Voilà, là, on reconnaîtrait quelque chose de juste et de vérifiable.
Quelle conclusion vous tirez de cette affaire ?
C'est un énorme gâchis pour nous. On était dans une petite compagnie qui fonctionnait bien, avec des collègues de travail motivés. C'est un gâchis définitif. C'est-à-dire que nous, Pascal et moi, quand on va rechercher des photos de Falcon 50 sur Internet, on retrouve nos têtes. Quand on va parler de cocaïne, on va retrouver nos têtes pour des années. Nous, cette histoire, c'est pas la nôtre. On l'a subie depuis bien longtemps. 18 mois, ça fait très long, sans voir nos familles, sans pouvoir toucher nos enfants, donc c'est une expérience que je souhaite à personne et il est temps que ça cesse.
Il est temps que ça cesse, et c'était le 22 septembre 2014, on est en 2019. Entre-temps, il y a eu ces événements qu'on va rappeler tout à l'heure, cette exfiltration spectaculaire, et puis maintenant ce procès qui s'ouvre lundi prochain, et ces deux pilotes français, déjà condamnés à 20 ans de prison donc en République dominicaine, mais qui risquent gros aussi au cours de ce procès devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Une pause tout de suite, et puis après on parle de la situation de ces pilotes, de la valeur de leurs arguments, de ce qui est, comment dire, pratiqué dans cette aviation d'affaires. Est-il compréhensible que des pilotes d'un avion privé puissent ne pas savoir ce qu'ils transportent? Je pose la question à Pierre Julien dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Émission spéciale sur l'affaire Air Cocaïne à l'occasion de l'ouverture du procès, donc lundi prochain, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, de 14 personnes soupçonnées, accusées, en tout cas de trafic international de stupéfiants, à des titres divers, bien sûr, soit d'acteurs à 100%, si j'ose dire, soit de complices. Alors Pierre Julien, on a entendu il y a quelques instants Bruno Audos, mais ce que disait Bruno Audos dans cette communication téléphonique avec Jean-Alphonse Richard, c'est exactement ce qu'a dit Pascal Forêt à d'autres occasions. Les deux pilotes disent, nous ne savions pas ce qu'il y avait dans cet avion. On peut prendre cet argument en compte?
Déjà, donc Bruno Audos et Pascal Forêt, faut rappeler que ce sont des anciens de l'aéronautique navale, ils ont pas mal de copains, hein, justement, dans le monde militaire. Oui. Ils ont gardé, on le verra plus tard.
Évidemment, c'est des bons pilotes, leur... c'est pas des
voilà, amateurs, c'est ce que j'allais dire, ce sont des bons pilotes, ils ont leur qualification, évidemment, sur Falcon 50. Oui. Ils ont déposé les plans de vol. Tout est normal entre Punta Cana et puis la destination en France. Oui. Ce sont des pilotes de droit privé commercial. Leur entreprise existe. Hein, c'est SNTHS. Hein, c'est une société... Tout à l'heure, on entendait Bruno Audos. C'est vrai que c'est une petite boîte.
Oui, mais qui est pilote sur rue.
Mais qui est connue. Le Falcon 50, bon, c'est un appareil, évidemment, qui est destiné tout à fait à faire ce genre de destinations, des vols privés, commerciaux, un peu aussi, parce que c'est des pilotes employés par un propriétaire qui est, peut leur demander à travers, tout à l'heure vous parliez effectivement d'une personne trader qui peut louer les services de cet avion qui appartenait en fait à Afflelou, mais qui est depuis vraiment au cœur de la compagnie. C'est d'ailleurs l'avion sur lequel en fait cette compagnie vit, hein, puisqu'après elle va disparaître. Donc eux, leur rôle, c'est vraiment le plan de vol, c'est la sécurité, la sûreté. Regarder de très près ce qu'il y a à l'intérieur de l'avion, c'est pas vraiment leur rôle, hein. C'est comme sur les compagnies régulières, on va dire, c'est pas au pilote. Lui, le pilote, il a en charge le centrage de l'avion, c'est-à-dire d'accord, par rapport à la masse de l'avion. C'est là où il doit savoir si on en met un peu plus devant, un peu plus derrière. Le reste, alors évidemment, après, c'est 26 valises, 680 kilos de produits, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une légèreté, on va dire peut-être, mais c'est vrai qu'au départ,
une inconscience quoi.
Oui, voilà, on pourrait dire de l'inconscience. Hein, c'est pas vraiment leur boulot au départ de dire qu'est-ce qu'il y a dedans.
Non, puisque le droit international dit que il est assez clair là-dessus. Il dit que ils n'ont à checker. Enfin, en tout cas, les passagers et l'équipage n'a à checker. Les valises, etc., que si c'est un vol dit privé.
Voilà,
c'est ça. Et c'est un vol privé que dans le cas où c'est le propriétaire de l'avion, ou sa famille, ou ses amis, c'est-à-dire des vols gracieux, qui l'utilisent.
Dès si l'instant c'est où c'est un vol commercial,
là, c'est un vol commercial. Donc c'est le droit, c'est l'article très clair. Chicago, voilà, c'est la convention qui s'applique.
Enfin, ouais,
c'est le principe des réglementations normales qui s'appliquent. Et eux, c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas leur boulot d'aller regarder vraiment ce
qu'ils vont. Est-ce qu'un chauffeur de taxi est habilité à ouvrir votre valise?
Bon, d'accord. Et d'ailleurs, on peut noter, Pierre-Julien, que les syndicats de pilotes d'avions...
Les SNPL va les soutenir tout de suite, hein, évidemment. Depuis... D'abord parce qu'ils ont des copains au SNPL, qui
bien
évidemment,
sûr,
parce qu'on sait aussi, c'est le monde des pilotes, hein, chacun se connaît, donc à partir de là, ils vont dire, non, attendez, c'est ça, les gars, ils n'ont rien à voir là-dedans. Alors évidemment, on va entendre les mots d'extrême négligence, d'imprudence, de bouc émissaire, évidemment, parce que tout à l'heure, vous le rappeliez, hein, on sait bien qu'il y a le scénario a été mis en... Allez, les autorités dominicaines se sont bien amusées à ressortir, à faire rentrer les valises, les remettre aussi pour montrer la responsabilité, avec tous les guillemets possibles, des quatre qui était à bord de l'avion.
Alors justement, on va écouter un autre document à RTL, c'est après le procès, là-bas, donc à Saint-Domingue, les quatre Français sont condamnés, les deux pilotes sont condamnés à 20 ans de réclusion, et dans RTL Matin, Arnaud Grange diffuse un entretien qu'il a eu après le verdict avec l'avocat des deux pilotes français de l'époque, Maître Reinhardt.
On est pire que dans l'erreur judiciaire, on est dans l'absurdité judiciaire. Il n'y a rien qui accuse d'une façon ou d'une autre Bruno et Pascal. Donc on est dans une situation où nous devons hurler contre cette situation d'injustice. Et d'ailleurs, eux sont sans voix. Ils sont sans voix, c'est vraiment le terme. Ils se disent mais que dans quel cauchemar nous sommes, une sorte de Midnight Express remake, où ils se disent nous, on n'a fait que notre métier, on est pilote. On est commandant de bord et puis on prend des clients et puis on sait bien dorénavant que c'est parce qu'ils étaient français qu'ils ont été condamnés. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'ensemble des autres personnes accusées et qui étaient de République dominicaine, eux ont été bien évidemment innocentés, sauf 2-3, mais à des peines extrêmement légères, je crois, de 2-3 ans de prison. Voilà. Alors c'est vous êtes français, vous êtes en République dominicaine, vous êtes en danger.
Voilà, ça c'était Maître Reinhardt qui depuis n'est plus l'avocat. Depuis le retour en France des deux pilotes, c'est le cabinet donc de Maître Éric Dupont-Moretti et de Maître Antoine Veil qui assure leur défense et qui assurera leur défense à partir de lundi prochain. Au passage, puisque on va entendre dans un petit instant Maître Julien Pinelli, je voulais juste dire que le cabinet Moretti-Veil n'a pas donné suite à nos invitations pour cette émission. Alors encore une question maintenant, Pierre-Julien. Effectivement, les pilotes disent, est-ce que vous vous rendez compte, on est pilote privé dans une compagnie privée d'affaires, on va dire à nos passagers, on voudrait bien ouvrir les valises pour voir ce qu'il y a dedans.
Bah oui,
personne n'acceptera, quoi.
C'est, bah voilà, c'est ça, et vous perdez vos clients, hein, dans ces cas-là, bien sûr.
Ou votre emploi.
C'est là où il faut faire. Et après, votre emploi, là, vous perdez votre client, et donc, à partir de là, vous risquez d'être licencié. Non, mais c'est pour ça qu'en même temps, d'ailleurs, je crois que cette affaire aussi, même si, fait que la réglementation n'a pas bougé, en réalité, on en reste toujours à ces règles, qui sont, bon, qui dirigent l'aéronautique, hein, et le commercial. C'est sûr, en revanche, que beaucoup de pilotes ont compris qu'il ne fallait pas être aussi naïf, parce que la naïveté, parfois peut-être coupable hein, là-dessus. On le sait, c'est un petit peu ce qu'on leur reproche d'ailleurs. Hein. C'est plus une naïveté coupable. Hein.
Alors, on va maintenant aborder un autre des éléments saillants de ce dossier très rapidement avec vous, Jérôme Pirat. C'est la fameuse opération, bien que ça ne joue pas dans le procès de la semaine prochaine, hein, mais à un moment, c'est quand même un coup de théâtre et énorme. Octobre 2015, les deux pilotes ont réussi à quitter la République dominicaine. On apprend qu'ils sont en France depuis le samedi 24 octobre 2015. Alors, on va écouter un document RTL de quelques heures plus tard. Jean-Baptiste Bourgeon donne sur notre antenne les dernières informations qu'il a pu recueillir sur le scénario étrange de cette évasion, très étrange.
Les deux Français ont été vus pour la dernière fois à l'hôtel Embajador de Saint-Domingue. La direction confirme à RTL que Pascal Forêt et Bruno Audos ont bien séjourné plusieurs nuits au sein de l'établissement sous leurs propres identités. Les deux pilotes étaient accompagnés d'Emeric Choprade, député européen du Front National qui les soutient depuis le début, mais il nie toute implication dans la fuite des deux Français. Une fuite qui pourrait en fait ressembler à une exfiltration car les deux pilotes, des anciens de l'armée de l'air, aurait pu bénéficier de complicité pour quitter la République dominicaine en bateau. Ils auraient pu ensuite regagner une île française des Antilles avant de rejoindre Paris. Un scénario digne d'un film d'espionnage mais qui comporte encore beaucoup de zones d'ombre. Elles devraient être rapidement levées car l'avocat des deux pilotes a annoncé qu'ils avaient déjà pris contact avec la justice française.
Oui, Jérôme Pirat, c'est ce que diront d'ailleurs les pilotes en disant nous on a voulu rentrer en France pour être devant une vraie justice puisque on était condamné à tort là-bas quoi. Donc en fait c'était bien une opération d'exfiltration.
Oui bah c'était une évasion même s'ils étaient en liberté surveillée, c'était une évasion programmée. Oui il y a eu un commando, en tout cas, un groupe de gens qui s'est formé pour ça. On en connaît un peu maintenant les détails. Il y a eu des rebondissements. Ils devaient partir au début avec un hélicoptère de l'armée dominicaine, avec des pilotes corrompus. Ceux-là, pour le coup, des vrais.
C'est le leur.
Voilà.
En réalité.
Voilà. Et finalement, ils n'ont pas eu confiance. Enfin, ce qu'organisaient. Donc, ils ont versé l'argent, mais ils ont avancé le départ une semaine plus tôt. Ils l'ont fait par bateau, effectivement. Alors, ils ont eu quelques galères. Il y avait un bateau qui devait les rejoindre pour leur donner de l'essence pour rejoindre la Martinique. Et puis finalement, enfin, Saint-Martin d'abord. Et puis finalement, personne n'est venu les ravitailler. Ils ont dû aller dans une petite île des îles Vierges, etc., au risque de se faire attraper. Enfin bon, voilà. Donc il y a eu effectivement. Mais effectivement, vous faites bien de le rappeler, Jacques, ça ne figurera pas à la cour d'assises, ce volet de l'affaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'enquête en France pour ni identifier le commando, ni même savoir qui l'avait financé.
Ouais. Et Christophe Naudin, ce spécialiste aéronautique, qui était évidemment, sinon commanditaire, tout au moins l'homme qui a chapeauté cette opération, a été condamné pour sa part donc en République dominicaine. Et il est revenu en France, il a été libéré pour raison médicale.
Il a été arrêté en Égypte parce qu'il y avait un mandat international.
Extradé
en République dominicaine.
Condamné.
Il a fait 2 ans de prison sur place.
Voilà. Deux prisons où il a quand même, comme on dit, c'était dur pour lui.
Avec 30 kilos de moins.
Voilà, il est revenu plutôt en mauvais état. C'est d'ailleurs pour raison de santé qu'il est revenu en France. Voilà. C'est comme ça que la justice française
a été libéré au printemps dernier. Alors, une pause, la dernière dans cette émission. Nous allons prendre en ligne Maître Julien Pinelli, qui est l'avocat de ce passager donc de l'avion d'air cocaïne, Nicolas Pisapien.
L'heure du crime sur RTL.
Et c'est la dernière partie de cette heure du crime légèrement raccourcie ce soir, puisque tout à l'heure on a cette émission spéciale RTL Le Figaro LCI avec le Premier ministre comme invité. Donc ça c'est pour dans quelques minutes. Mais d'abord, Maître Julien Pinelli. Bonsoir Maître.
Bonsoir Monsieur Pradel.
Alors vous êtes l'avocat de Nicolas Pisapia. Nicolas Pisapia a été interpellé à bord de ce Falcon 50 avec les autres membres de l'équipage. Il se trouve actuellement toujours retenu en République dominicaine, donc il ne sera pas au procès d'Aix-en-Provence lundi.
À l'issue de sa condamnation en appel, Nicolas Pisapia a été maintenu sous contrôle judiciaire. Oui. L'une des obligations qui lui est faite, c'est de demeurer sur le territoire dominicain, et raison pour laquelle il n'est pas en mesure, évidemment, de se présenter à l'ouverture du procès devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 18 février prochain.
Alors, quel est votre sentiment sur cette affaire et sur le cas particulier de votre client? Et au-delà de son cas personnel, comment des personnes qui ont été condamnées à 20 ans d'un côté, je ne sais pas combien a été condamné M. Pisapia,
20 ans également, oui.
Comment on peut les rejuger en France? C'est en droit, c'est possible?
En droit, beaucoup de choses sont possibles, malheureusement.
Non, en réalité, ça peut étonner. Voilà.
Oui, il y a un principe général que chacun connaît, qui est le principe non bis in idem.
Oui, on n'est pas jugé deux fois pour la même chose. Oui.
Pour les mêmes thèmes. Alors, ce principe connaît de très nombreuses atténuations, qui ont été d'ailleurs appliquées au cas d'espèce, puisque Nicolas Pisapia n'est pas le seul, évidemment, à avoir été poursuivi en République dominicaine pour l'être à nouveau en France. Oui. Mais en réalité, il faut une peine, d'une part, définitive, prononcé dans un cadre particulier et pour des faits strictement identiques. Mmh. Le code pénal français n'étant pas le code pénal dominicain, il est évident qu'on peut retenir en France des infractions qui ne sont pas strictement les mêmes que celles qui ont été retenues à l'époque en République dominicaine. Et s'agissant de Nicolas Pisapia, surtout, la peine qui lui a été infligée n'est pas définitive là-bas, puisque nous sommes actuellement dans le cadre d'un pourvoi devant la Cour suprême de la République dominicaine. Donc, on nous oppose finalement cet élément pour nous dire qu'il peut être effectivement poursuivi également en France pour des faits qui, s'ils ne sont pas les mêmes, sont en tout cas connexes ou très proches.
Qu'est-ce qu'il risque? Il peut être jugé en son absence?
Alors, il pourrait. La cour d'assises aurait la possibilité de le juger par défaut, c'est-à-dire qu'il aurait la possibilité de faire ce que l'on appelle opposition lorsqu'il reviendrait sur le territoire français. Mmh. Ce n'est évidemment pas l'option que je souhaite voir mise en œuvre, et j'ai sollicité donc la disjonction de l'accusation contre Nicolas Pisapia. Ouais.
C'est-à-dire qu'il ne soit pas jugé dans ce procès qui s'ouvre lundi, mais à part entière, si j'ose dire, s'il
tout
rentre
à fait.
En France. Quoi. Voilà.
C'est-à-dire que son cas soit séparé de celui des autres accusés et qu'il soit jugé seul, le cas échéant, lorsqu'il se présenterait à nouveau en France.
D'accord. Et votre analyse générale... Oui, attendez, Pierre-Julien voulait intervenir.
Lui, c'est un peu le troisième homme dans cette histoire.
C'est un petit peu le troisième homme, c'est peut-être pas l'homme du tout d'ailleurs, hein, selon la façon que l'on a de lire le dossier. Beaucoup de choses en réalité dans cette procédure sèment une très profonde confusion. Il faut se garder à mon avis des affirmations un petit peu raccourcies, parce que ce que l'on ne dit peut-être pas ou pas assez souvent, c'est qu'il y a derrière cette procédure sans doute un conflit patent entre deux autorités à Saint-Domingue, que sont la DNCD, qui est un petit peu l'équivalent de l'organe de police de contrôle des drogues,
oui.
De l'autre côté l'armée, et que j'ai le sentiment pour ma part que si cette affaire prend place sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Domingue à cette époque, c'est aussi sans doute parce qu'un conflit ouvert entre ces deux autorités fait qu'il va falloir poursuivre des personnels de la DNCD, raison pour laquelle l'armée à l'époque intervient.
Oui, d'accord. Donc là, vous êtes dans une position de... C'est wait and see, quoi,
pour l'instant. Pour l'heure, oui. Ce que j'attends, c'est une décision de la part du président de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, qui vienne faire droit à ma requête, en réalité, en disjonction, de façon à ce qu'évidemment nous puissions suivre ce procès, mais en spectateur, en quelque sorte, sans que Nicolas Pisapien ne soit jugé.
Je vous remercie beaucoup, maître. Merci. On voulait absolument simplement signaler à ceux qui nous écoutent la situation particulière donc de celui que vous défendez. Merci beaucoup, Jérôme Pierrat.
Merci à vous.
Est-ce que vous avez un mot à ajouter, non pas pour votre défense, mais parce que l'émission est en train de se terminer?
Non, je ne sais pas si la cour d'assises d'Aix-en-Provence arrivera à démêler une affaire aussi complexe.
Elle aura cette semaine pour cela. Merci Pierre-Julien.
Merci Jacques.
Et évidemment, ce procès sera suivi par la rédaction d'RTL et on en entendra beaucoup parler à partir de la semaine prochaine. Voilà, l'émission est maintenant officiellement terminée.